à 18h sur les ondes de CKIA 88,3.
Bonjour, ici Rémi Giguère. Voici votre bulletin du mercredi 24 septembre 2025. Le milieu syndical réagit vivement au contenu d'un document interne obtenu et divulgué par Québec solidaire plus tôt, faisant état des intentions du gouvernement de François Legault de légiférer pour rendre facultative une part des cotisations versées automatiquement aux syndicats. Pour le président de la CSQ, Éric Gingras, le gouvernement cherche clairement à réduire les capacités d'action et d'intervention des organisations syndicales, ce qu'il qualifie de dangereuse dérive pour le Québec. Pour sa part, Magali Picard, présidente de la FTQ, accuse le gouvernement de perdre la tête. L'unité de loisirs et de sport de la capitale nationale s'inquiète de la fin de la mesure d'accompagnement et de soutien aux unités régionales de loisirs et de sport en matière de loisirs culturels du ministère de la Culture et des Communications. Cette mesure aura permis à l'organisme de jouer depuis 2019 un rôle actif dans le développement du loisir culturel régional. À la suite de cette coupure, l'unité de loisirs et de sport de la capitale nationale ne sera plus en mesure de dédier une personne ressource exclusivement au développement du loisir culturel dans la région. Pour son tout premier engagement de campagne, le maire sortant Bruno Marchand dit vouloir favoriser l'accès à la propriété pour les familles et les premiers acheteurs. Le Parti Québec, fort et fier qu'il dirige, s'engage à construire 5000 unités familiales en 4 ans à l'aide de diverses mesures, nous informe le journaliste Simon Bélanger sur le média Mont-Saint-Jean. Bruno Marchand dit vouloir faciliter l'accès à la propriété pour une famille qui veut s'établir à Québec et grandir à Québec sans se ruiner. Il promet notamment que la ville prendra en charge certains coûts de développement pour les promoteurs qui s'engagent à construire des maisons dont le prix sera inférieur au coût moyen, actuellement autour de 435 000 $. Une soirée théâtrale sous le thème de la Marche mondiale des femmes « Transformer le monde, pourquoi pas » aura lieu demain au centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier. L'événement débute à 16h30 et la pièce théâtrale, créée par des militantes du regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale, sera présentée à compter de 17h30. Elle sera suivie d'un café du monde où les participantes et participants pourront aborder et réfléchir par l'art sur les différentes orientations de la Marche mondiale des femmes, soit la pauvreté, les violences faites aux femmes et la crise climatique. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
À toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'émission Première Langue sur les ondes de CKIA 88.3 FM, une émission consacrée à la valorisation des langues autochtones au Québec, au Canada et à travers le monde. Je suis Cécilia Alexandre et j'animerai cette émission avec Véronique Odette.
Oui, oui, bonjour. Nous avons l'immense plaisir et le privilège aujourd'hui d'accueillir Sarah Cléry qui va nous parler de son parcours et on va la laisser se présenter. Donc, oui, oui, Sarah.
Oui, Sarah Cléry, Ntishinikashin, Mac Megunis Ntishinikashin, mon nom spirituel. Mashtuyat Nuchin, je viens de la communauté de Mashtuyat.
Merci, Tchinashkmetin, Sarah. On va parler tout d'abord de ton parcours et ton lien avec la langue première qui est le Nelweun. Donc, Sarah, donc j'ai passé à travers un peu ta biographie, je tiens à préciser quand même, sur Internet, qui est assez abondante. Et donc, ce qu'on lit, mais tu vas nous en parler davantage, c'est que tu es une personne artiste qui par la suite est allée donc, dans le terrain des droits linguistiques. Donc, est-ce que, justement, si en parlant un peu de toi, ton parcours artistique, j'aimerais t'entendre peut-être en lien avec ce langage artistique que tu crées.
Je vous propose peut-être de remonter un petit peu plus loin pour vous présenter qui je suis. À peu près vers l'âge de 4 ans, je me suis rendu compte que j'étais une personne qui était à la fois probablement féminine, masculine. Donc, je voulais beaucoup faire les activités des hommes. Je voulais aller à la pêche, puis on m'amenait pas. Donc, j'avais sur le bord du Pequagami une petite branche avec un restant de ligne là, que les pêcheurs coupent leur ligne. Là. Donc, je faisais comme semblant de pêcher, mais j'avais rien pour pêcher. Donc, je voulais toujours faire ces choses-là des deux côtés. Donc, c'est plus tard que j'ai vraiment compris que c'était que j'étais une personne deux esprits. Ensuite, j'étais aussi une athlète, donc j'étais une coureuse, j'ai fait les Jeux autochtones, ça m'a donné une belle motivation, une valorisation, et je suis partie à l'âge de 12 ans étudier à Chicoutimi pour m'entraîner, donc qui m'a menée aussi plus tard à l'Université de Laval pour faire de l'athlétisme, où j'ai compétitionné en athlétisme, et à la fin de ma carrière en tant que perchiste. Donc ça fait c'est une partie de ce qui me compose, mais également il y a ce côté où depuis que je suis très jeune, je me souviens vouloir aller voir Gérard Siméon, qui était un de notre très bons artisans dans la communauté, qui avait un petit artisanat, mais qui à l'intérieur de sa petite artisanat aussi, il racontait les légendes de la création du monde. Donc je me rappelle l'odeur de l'atelier de Gérard. Je me rappelle la passion que j'avais d'en savoir tellement plus sur tout ce qu'il était en train de me raconter. Donc, déjà très jeune, un besoin de connaître ma culture, je pense une soif immense d'être abreuvée par ces savoirs-là. Ce qui a fait de moi, tu sais, une personne qui a réappris de façon un peu autodidacte en allant cogner à la porte de certains porteurs de savoir, plusieurs savoirs, là. Donc, je suis une cueilleuse, un chasseur. J'essaie le plus possible de respecter ces enseignements-là que j'ai reçus, de respecter l'animal, de le faire de façon respectueuse, parce qu'en tant que personne spirituelle aussi, j'ai cette vision que on doit être conscient et prendre soin de tous nos frères et sœurs de la création. Donc ça, c'est aussi un volet qui me construit. Et l'art est venu également par nécessité, je pense aussi, est arrivé dans ma vie, dans un besoin d'expression, de dénonciation, de vouloir laisser ce message-là puissant qu'on est capable de laisser avec l'art, d'affirmation, puis d'abord par la peinture, ensuite par la performance. J'aime beaucoup la performance, donc j'ai un duo en performance avec ma grande amie Roma Washish, Trickster Sister, donc on aime beaucoup de temps en temps aller défaire l'or, de créer cet espace-là pour pouvoir ramener une forme d'harmonie, inciter les gens à la réflexion, parfois dans une forme d'inconfort qui est nécessaire et qui fait partie de nos légendes, de nos croyances à travers les clowns, les tricksters, l'harmonie et à travers le chaos, l'harmonie revient.
Et d'ailleurs, j'ai vu que tu avais fait une expo solo en 2017 au musée de Danak. Si je ne me trompe pas, c'est reprendre le portage qui était le thème de cette exposition.
Oui, tu me ramènes un petit peu loin. Oui, Expo Solo, Danak, Mashtoyat. Ma difficulté que j'ai, je pense, en tant qu'artiste, c'est de me déployer, de me mettre de l'avant, de vouloir faire les choses aussi à ma façon, à mon rythme. J'adore mes œuvres, je les fais d'abord pour moi, donc j'ai de la difficulté à m'en départir, mais ça viendra, puis c'est ce qui me construit et ce qui me construira toujours. C'est pas un travail pour moi, c'est une manière de vivre, c'est une manière d'être, c'est une façon de m'exprimer, c'est une réflexion de méditation sur la vie.
Et justement, si on parle en lien avec la langue, si j'ose dire, ta première langue, qui serait le Nelwéhoun. Quelle place as-tu donné justement à cette langue, que ce soit à travers ton parcours de vie, à travers ton chemin, puis même à travers ton œuvre artistique? Quelle est ta relation avec cette langue-là?
D'abord, je suis la fille d'un survivant des pensionnats. Moi, du côté de mon père qui a été au pensionnat, ses parents étaient d'un côté Abénaki et de l'autre côté Cree irlandais. Donc, il y avait plusieurs... Et Innu également. Donc, j'ai plusieurs racines profondes qui font de moi une bonne personne pour diriger, je pense, le comité, le travail que je fais aujourd'hui. Donc, la langue m'a pas été transmise à la naissance, outre par le fait que j'avais des cours de langue à l'école Amish, Kamashtoyats. Mais ça a toujours créé chez moi une profonde blessure identitaire de pas pouvoir parler ma langue. Au sein de la nation Innu, on est une des deux communautés à Mashtoyats qui la parle moins. Et en tant que, comme je vous ai décrit, enfant chercheur, mais qui a besoin d'être nourri de sa culture, pour moi, c'est particulièrement violent de pas pouvoir parler ma langue. Et c'est possiblement... Je suis très certaine la raison pour laquelle je fais ce travail-là aujourd'hui. Pas nécessairement dans l'optique que moi, je vais la parler comme une langue première un jour, mais très certainement pour que les enfants qui vont suivre, les générations prochaines, puissent être enseignés, bercés, aimés dans leur langue, et puisqu'on puisse ramener au sein de nos propres communautés, des manières de le faire qui ressemblent à nos pratiques traditionnelles. Donc, un peu de... Je ne veux pas dire décoloniser, je pense qu'il faut plus revenir à ce qu'on faisait. Je sens et je vois une grande détresse chez les jeunes aussi, cette coupure-là qui nous vient des pensionnats. Elle est visible. Elle est visible pas seulement dans l'absence de la langue ou encore la diminution de la langue chez les générations qui ont suivi, mais au niveau d'une coupure relationnelle. Donc, on a maintenant plein de technologies qui nous empêchent d'être, qui nous empêchent de s'asseoir, manger ensemble, raconter, partager. Toutes des occasions de transmettre pas seulement les langues, les valeurs aussi, les façons de faire, nos protocoles, notre éthique. Donc, je pense que c'est pour ça que je milite. Et j'espère que dans le travail qu'on fait, nous, on y arrivera. Puis, c'est pas moi, c'est certainement le portage. Reprendre le portage, remarcher ce portage-là. Nos ancêtres le faisaient très bien. Ils enseignaient et ils étaient capables d'élever avec très peu de ressources des enfants forts, fiers, vertueux. Donc, des enfants qui allaient eux-mêmes continuer ce portage-là. On a eu cette grande brisure-là. Puis maintenant, il faut le reprendre. Donc, le portage n'a pas été marché, ou presque plus, peut-être que par quelques aînés, et on doit nettoyer le portage, revenir, reprendre nos savoirs. Et ça, on le fait à travers nos traditions juridiques, quand on comprend tout ce que nos langues portent. Donc, pour moi, c'est un parcours d'apprenant qui est difficile, parce que j'ai pas autour de moi de locuteurs de langue maternelle, mais on est en train de regarder à trouver des solutions pour être un peu plus nourris dans notre langue pour l'équipe du comité, en tout cas. Donc, j'ai pris des cours en ligue, mais c'est difficile. Donc, cette recherche-là est constante. Ce vide-là, il est encore présent, puis on apprend un peu plus à vivre avec pour s'assurer que les pratiques qu'on mettra en place soient sécurisantes aussi. C'est vraiment difficile, le parcours d'un apprenant qui veut apprendre la langue. C'est souvent très angoissant. On a tout le temps l'impression qu'on est jugé, qu'on fait des erreurs, on se sent coupable quand on retient pas. Si on est devant des assistances, qu'on fait des erreurs, c'est ça, c'est pas facile. Pour les apprenants. Donc, il faut beaucoup de bienveillance.
Et tout à l'heure, tu disais que à Mashtoyats, les personnes parlent très peu leur langue et par rapport à, par exemple, aux Innus, par exemple, de la côte nord. Qu'est-ce qui explique, selon toi, que les Innus de Mashtoyats la parlent moins que, justement, ceux de Pessamit, Noutachquan, etc., sur la côte nord?
Mais c'est peut-être le fait aussi que Mashtoyats est un lieu de rassemblement. Donc, il y a eu des nations Abénaki, il y a eu d'autres nations, il y a plusieurs Atikamekw également. Et on est quand même dans un milieu assez urbain. Donc, je pense que c'est peut-être cette partie historique de la communauté qui n'a pas fait que la langue elle soit transmise. Mais les pensionnats, il ne faut pas non plus... On a eu un pensionnat sur notre territoire. Et cette violence-là, on a des gens qui, dans leur parcours, sont devenus des enseignants de langue. Donc, ils parlaient très bien leur langue. Mais pour pas que leurs enfants aient à vivre qu'est-ce qu'eux ont vécu en tant que pensionnaires, ils ne l'ont pas transmise. Donc ça, on voit ça beaucoup, étonnamment. Pas étonnamment, mais malheureusement. Donc ça aussi, ça fait partie des traumatismes qui ont un impact. Puis les communautés de la Côte-Nord, si je fais un portrait aujourd'hui, je pense qu'ils sont restés plus homogènes, donc ils sont restés plus opaques à des intermariages peut-être, ou des choses comme ça, mais il y a des communautés qui aussi ont été très isolées et dont la langue est partie rapidement, donc je pense que ça prend beaucoup de recherches, des études sur les données, et maintenant c'est sûr qu'avec nous, le fait qu'on a de nouveaux membres qui ont retrouvé leur statut parce que leur grand-mère était mariée avec un allochtone à une certaine époque et qui avait dû quitter. Là, notre membership a explosé et notre diminution, notre pourcentage de gens qui parlent la langue dans ces gens-là est très, 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 très bas. Donc, ça fait en sorte aussi que le pourcentage de la langue parlée à Mashtoyats est représentatif de cette histoire comme récente de ce nouveau membership-là.
C'est une question que j'ai toujours voulu poser justement à des personnes de Mashtoyats et que c'est une vraie interrogation que j'ai en fait aussi, là, du fait qu'on parle le Nelweun à Mashtoyats puis l'Innu Aemun sur la côte nord. Puis je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire Nelweun en fait? Puis pourquoi on dit Nelweun? C'est vraiment une question que je me pose. Je ne sais pas si tu peux me répondre.
Le Nelweun, ça a dû être standardisé par... il y a eu tout un exercice de standardisation aussi récente pour Mashtoyats. Il y en a eu un aussi pour les communautés de la Côte-Nord. Il y a plusieurs dialectes de l'Innu Aemun. Principalement, je pense que c'est des langues qui sont connectées. Hein? On a toute la racine algonquienne, de la famille algonquienne. Donc, puis je ne veux pas faire d'erreur parce que je me souviens que Janine Tremblay nous en a parlé dans un conseil d'administration du musée. Puis je pense que ça voudrait peut-être dire notre langue, mais ouais.
Tu disais, donc, à l'école, tu l'avais apprise un peu dans des cours obligatoires, mais après, rapidement, dans le parcours scolaire, la présence de la langue disparaît, si je ne me trompe pas, c'est ça?
Oui, moi, il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas d'école secondaire, donc j'ai été à Chicoutimi, comme je le disais tout à l'heure, puis donc ça a mis fin à mon parcours d'apprenante. Et puis, à cette époque-là aussi, à Mashtoyats, on focusait beaucoup sur seulement des mots, donc je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être plus avancé dans les techniques d'enseignement des langues secondes, où on doit envisager de donner des outils à l'apprenant pour qu'il soit capable de former des phrases, en fait, de petites phrases, des verbes d'action. Donc, je pense que c'est de passer de l'enseignement de mots à quelque chose de beaucoup plus vivant que l'apprenant va pouvoir réutiliser au quotidien.
Donc, à Mashtoyats, commence à y avoir des... je ne veux pas dire des formations, mais plus d'actions qui sont entreprises pour que les personnes qui y habitent ou qui sont juste en connexion avec puissent la parler, c'est ça?
Oui, du très gros travail dans les dernières années de l'équipe de Julie Rousseau, entre autres. Donc, on a d'ailleurs adopté le Niloué-Oun comme langue officielle il y a quelques mois. Donc, ça, c'est des initiatives qui envoient des messages puissants à toute la nation et à la communauté que c'est notre langue. Donc, on va la mettre en valeur, on va déployer des moyens, des forces pour pouvoir la ramener. Donc, je pense que ça envoie un beau message. Et dernièrement, justement la semaine passée, on a eu la chance d'avoir une présentation de l'équipe de Julie pour pouvoir mieux comprendre leur planification. Donc, ils se sont dotés d'une planification linguistique pour la langue et ils ont priorisé certaines actions et des objectifs qui vont permettre à la communauté d'agir, non pas de faire seulement des projets, mais de se donner des objectifs, d'essayer d'y répondre en déployant des moyens et des ressources pour y parvenir. Donc ça, c'est là qu'on est rendu. Il faut planifier le court, le moyen, le long terme dans une vision où on essaie de prendre un peu de recul pour comprendre où on en est au niveau de nos enseignants, qui va enseigner dans 5-10 ans, quelles sont nos ressources disponibles, qui on vise en priorité pour mettre les moyens sur tel ou tel groupe. Donc, ça, ils ont fait un très bel exercice, puis je ne voudrais pas parler à leur place, mais ça mériterait une entrevue.
Je suis complètement d'accord. Et justement, tu me parles donc du Niloué-Oun, qui est reconnu comme langue officielle dernièrement. Est-ce que cette action a été permise à la suite, et on en parlera plus tout à l'heure, enfin bientôt, de la mise en œuvre de la déclaration des Premières Nations aux langues ancestrales, où ça a été mis en place via l'action plus d'un conseil à Majdoyats?
Là, je peux pas parler pour eux. Je pense que les bonnes idées, parfois, les idées voyagent. Et nous, depuis qu'on fait de la mobilisation avec le comité régional, on a parlé, entre autres, de Gaknawagé, qui ont une loi sur leur langue depuis 1999. On s'est intéressé à ça. Leur langue, elle est officielle depuis ce temps-là. Il y a eu la première loi du gouvernement de la nation Cree. Donc, il y a toutes des choses qui sont en train d'émerger. La déclaration officialise toutes nos langues sur nos territoires comme des langues officielles. Donc, et on se rend compte en parlant et en parlant avec des chefs, puis en parlant de ce sujet-là, que Jean-Charles Pietachaud et Quan Chit nous dit « Hey, j'ai une vieille résolution qui date de 1990 ou je ne sais pas trop quelle date exactement, là, même qui est très vieille, qui nommait leur langue comme langue officielle. » Donc, vous voyez, il y a des fois des choses qui méritent juste que quand on les ramène et on a une vision ensemble, commune, mamou, ça porte fruit, ça donne des idées, ça génère des actions. Puis en plus, on peut bénéficier de ces défis-là qui ont été rencontrés dans d'autres nations pour pouvoir soit éviter les erreurs ou mieux orienter nos actions.
On pourrait faire une petite pause musicale avant de se lancer dans l'action du comité puis ton mandat en tant que directrice de celui-ci. Tu nous avais suggéré comme type de musique Sagi Ottawa. Il s'agit d'un artiste Atikamekw Nerimowin de Manawan et qui a son dernier album s'appelle Ni Wachimakan, qui veut dire « Mes lumières », qui est nominé d'ailleurs par le Gala de la Disque 2025 comme album autochtone de l'année. Et donc, Sagi Ottawa, pourquoi avoir choisi cet artiste pour cette émission?
D'abord parce que j'apprécie beaucoup Sagi. Je considère comme une personne qui porte les valeurs de sa nation, une belle nation, la nation Atikamekw, humble, mais très résiliente, forte. Les mots, quand tu parles avec les Atikamekw, tu t'assois un peu. Leurs mots sont puissants. Tu te sens être vraiment quand tu es avec eux. les gens que, avec qui je côtoie de la Nation Atikamekw, dont Sagui, je trouve qu'il reflète ça. Et Sagui également a été enseignant de langue, je pense directeur d'école. Donc, il y a aussi cette, je pense, cette passion de redonner aux jeunes, de ne jamais oublier les jeunes. Donc, cette transmission-là est importante pour lui. Puis, pour moi, ça me rejoint parce que j'ai pour venir au comité, en fait, j'étais avant sur le terrain en éducation, dans cette vision dont je te parlais tout à l'heure, de ramener nos pratiques dans les écoles, de ramener nos savoirs, de ramener nos valeurs, très inquiet de sentir cette anxiété-là, ce mal de vivre-là de nos enfants. Ce sont tous nos enfants dans la vision Première Nation, donc j'ai quitté pour prendre ce chemin-là en me disant que ça allait peut-être déployer encore plus de moyens, donc que j'allais pouvoir encore ouvrir de plus grandes portes. Mais c'est déchirant parce que les enfants puis le terrain manquent beaucoup, beaucoup. Alors, c'est ça. Donc, je vois, je ressens ça et je respecte ça de Sagui, qui est un enseignant, qui est un transmetteur et qui va toujours l'être probablement, peu importe où il se trouve.
Et d'ailleurs, il y a Sagui avec qui on a parlé hier, nous a transmis, en fait, très généreusement, les paroles de la musique qu'on va diffuser maintenant. Je vais la lire, je vais lire ses paroles. Je ne prononcerai pas en Atikamekw ses paroles, je vais juste lire la traduction française. Puis on écoutera les paroles directement en l'écoutant. Donc, je lis, donc c'est de la c'est de la chanson Kichi Meskano, qui veut dire grand chemin. Donc je trouve que ça va bien avec nos propos. Donc je vais lire les paroles de Sagui. Nous parcourons depuis des millénaires les portages de nos ancêtres. Il est vrai que nous n'étions pas vraiment présents depuis un temps. Nous étions égarés, car nous étions complètement bouleversés à cause de ce que nous avons traversé et reçu comme épreuve. Le refrain. Ça ne sera plus comme ça. Nous allons retrouver toute la beauté de notre héritage. C'est ça notre chemin. Nous l'avons retrouvé. Nous allons pouvoir s'enraciner à nouveau. Ne nous sortirons plus de chez nous. Le refrain encore. Nous y retournerons toujours. Nous allons retrouver toute la beauté de notre héritage. Nikwech, Sagui, si il nous entend.
Так шкагуак Эки бе нигиш кмак Эки бе жебзияк
Donc, nous revoilà après cette pause musicale offerte par Sagui Ottawa, qu'on aura la chance de retrouver, pas de retrouver, on va dire qu'il est là avec nous d'une certaine manière, mais de manière plus directe le 22 octobre en live, vu qu'il a accepté de venir nous parler le 22 octobre. Retour Sarah pour maintenant... parler peut-être un peu plus du comité régional, sur les langues ancestrales. Ce comité est relativement récent, 2020, si je ne me trompe pas, qui a été créé par l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Je le rappelle pour les auditrices et les auditeurs, l'Assemblée qui compte 43 communautés, bon, les 10 nations hors la nation Inuit, et qui compte énormément de mandats, dont celui relatif aussi à la promotion et protection des langues. Et donc, peut-être peux-tu nous parler un petit peu de ce comité, la raison de la création de ce comité un peu, en tant que directrice, bien sûr, du comité.
Oui, le comité a été créé en 2020. Ensuite, il y a eu une période d'organisation, un premier coordonnateur. Moi, je suis arrivée en 2022. Et quand je suis arrivée, on était déjà dans une situation, un contexte au Québec qui était difficile avec l'intention du gouvernement d'adopter le projet de loi 96 qui a été adopté, c'est la loi 14, donc la refonte de la Charte de la langue française qui a relevé à plusieurs égards les barrières institutionnelles pour les Premières Nations de parler leur langue. Donc, on est arrivé dans ça, dans un moment pas évident, pas dans un moment de reconnaissance du tout, de vouloir supporter les langues, mais plutôt de vouloir encore, je pense, perpétuer des manières de faire qui ont tendance à assimiler, hein, à avaler nos langues. Donc, on est arrivé là-dedans. Moi, dès le départ, la vision que j'avais de la création du comité, j'étais tout seul au départ. Il y a eu ensuite une coordonnatrice, puis maintenant, on est six. La vision du départ, c'était vraiment qu'il faut mobiliser et informer le plus possible les communautés des enjeux liés au dossier des langues. Donc, c'était vraiment... C'était vraiment important de prendre nos mandats de la table des chefs de la PNQL, mais de les faire redescendre auprès des gens qui sont dans la gouvernance dans leur communauté et qui ont le dossier de la langue. Donc, la vision, ça a été une place pour chaque communauté au sein de ce comité-là. Ce qui est difficile à piloter, plus on est de personnes, plus le bateau peut aller dans diverses directions, mais je pense que c'était essentiel d'avoir une place pour tout le monde dans une vision où on respecte la juridiction aussi et la voix de tout le monde, la particularité de chaque gouvernement Première Nation et la reconnaissance de leur autonomie gouvernementale. Donc ça a été le premier amorce et je peux dire qu'avec fierté, aujourd'hui, on est rendu à 28 représentants. Donc, ça fait pas quand même si longtemps qu'on tente d'aller chercher ces représentants-là qui sont aussi notre courroie de transmission avec les enjeux. Donc, on reçoit nos mandats, nos enjeux, mais on s'assure à plusieurs reprises dans l'année, on les rencontre pour qu'ils suivent le dossier puis qu'ils puissent aussi faire des changements, apporter ces enjeux-là. Ou encore des politiques, l'adoption de politiques, donc qui émergent, que ces dossiers-là deviennent vivants au sein de leur gouvernance. Donc, ils nous donnent des recommandations aussi sur diverses choses. Donc, c'est là ce qu'on est présentement. L'enjeu, on a également le mandat de défendre les intérêts de nos langues au Québec-Labrador. Donc, c'est un dossier plus politique. On veut attaquer le développement des capacités. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il manque beaucoup de ressources dans tous les domaines des langues. Donc, celles qu'on peut soutenir, là, on va avoir une personne qui va venir nous soutenir au niveau de la conseillance pédagogique pour les langues autochtones. Donc, peut-être des petits webinaires, des choses qui vont profiter à tout le monde pour pouvoir continuer de donner des outils, revitaliser les équipes terrain pour qu'elles puissent toujours avoir de meilleures pratiques, autant au niveau de l'administration que peut-être au niveau de la revitalisation. Donc, développement des compétences est très important pour nous et la promotion, revitalisation des langues, ça c'est sûr que c'est également un mandat. Donc, au niveau du comité, comme je le disais, on rencontre une fois nos représentants et des partenaires, donc des grands acteurs qui ont des dossiers de la langue, donc l'Institut Tchekapesh, Minwashin, parfois les corps aussi, les commissions et organisations régionales, parce que la langue, c'est transversal, hein? C'est autant un déterminant de la santé, c'est, ça peut être une question de ressources, c'est aussi en éducation, donc on ne veut pas travailler en silo. Pour nous, c'est vraiment important d'aller, d'être forts ensemble, d'aller chercher ces experts-là aussi qui sont dans diverses organisations pour qu'on puisse avancer ensemble dans cet objectif-là, là, plusieurs objectifs, en fait, de défendre et aussi de mettre en place dans les institutions, dans les structures, des projets innovants, des projets qui vont avoir un impact sur le maintien et la revitalisation de nos langues. Donc, c'est ça qu'un peu le comité a pour mandat. Puis par rapport à ça, bon, on va au régional, à la table de la PNQL, avec notre chef porteur, qui est le chef Sibi Flamand de la communauté de Manouane. Donc, lui, il nous amène aussi plusieurs recommandations et il a le chapeau de faire les représentations de politique à politique. On va également au national, à l'Assemblée des Premières Nations, pour amener et défendre les intérêts des Premières Nations du Québec au niveau des langues. Donc, on fait plein d'initiatives de genre-là. Également, bien, les instances internationales. Présentement, on ne peut pas ignorer qu'on est dans la décennie internationale des langues autochtones. On est conscient que ça ne sera pas suffisant une décennie, mais c'est le moment de se relever les manches, je pense, puis donner un grand coup et aussi de profiter des événements satellites que cette décennie nous offre pour peut-être ramener à l'agenda les enjeux spécifiques de notre région concernant nos langues.
Merci, c'est vraiment... Ça a l'air d'être un grand mandat quand même qui est le tien en tant que directrice du comité. Et juste pour m'assurer que je comprends bien le somme, parce que si je ne me trompe pas, il y avait aussi la loi sur les langues autochtones de 2019, qui est une loi fédérale. De ce que j'ai cru comprendre, la mise en œuvre n'était pas très évidente, voire floue. Et donc, c'est ce qui a nécessité vraiment une action plus localisée pour les nations, par les nations, du comité, de mettre en place des actions pour les soutenir dans la valorisation des langues autochtones. Cette loi-là étant peut-être insuffisante.
Présentement, on arrive, après 5 ans de cette loi-là, à une période de révision indépendante. Donc, on travaille et on fait des suggestions à proposer cette personne-là et les conseillers là, qui vont travailler à la révision. Mais effectivement, cette loi-là n'a pas de mordant. En 2019, lorsqu'on l'a adopté, il y a un budget qui est venu pour les langues autochtones qui était insuffisant, mais quand même déjà une amélioration envers ce qu'on avait auparavant. Et en fin de compte, cette loi-là qui doit protéger aussi nos langues, leur permettre du financement stable, adéquat. Présentement, ce qu'on a vu, c'est une diminution importante de ce financement-là. Donc déjà là, il y a un grand manquement du gouvernement du Canada à l'égard de ses responsabilités à protéger nos langues. Et ça entraîne plein de problèmes aussi à travers... les différentes régions, les différentes provinces où on ne s'entend pas sur la location régionale. Donc, quel montant auront les provinces? Donc, parce qu'il n'y a pas assez de financement, on se chicane un peu entre nous autres. Et c'est très malheureux parce que tout ce que nos langues portent devrait nous inspirer toutes ces valeurs-là. Donc, d'entraide, de co-responsabilité à l'égard des autres nations également. Donc, ça, c'est la vision que peut-être moi et Sibi, on essaie de garder en tête. Lorsqu'on parle d'argent, c'est pas toujours évident, mais comme on est des personnes avec, je pense, des belles valeurs qui comprennent le sens du partage et de l'entraide, on en arrive à militer pour des mesures qui permettront, j'espère, de laisser aucune langue derrière. Donc, la loi sur les langues autochtones, elle n'est à ne pas assez de mordant. Nous, avec la situation qu'on a vécue avec le Québec, dans lequel on sent que nos langues ne sont pas nécessairement protégées en raison de leur politique linguistique, mais on a voulu travailler avec le bureau du commissaire aux langues autochtones. Donc, lui, il n'a pas le même pouvoir que le commissaire, la loi sur les langues officielles, donc qui a d'autres pouvoirs plus contraignants. Donc, c'est des choses comme ça qui doivent être adressées. Donc, j'espère que les recommandations qui viendront de cette révision indépendante-là, de la loi, nous permettront d'avoir beaucoup plus de protection et un financement adéquat. Donc, un financement adéquat, il y a une enquête, une étude qui a été faite dernièrement par l'APN, c'est le rapport Brent par des chercheurs en 2022. Et seulement pour le Québec, on évalue annuellement les besoins de revitalisation à 100 millions. Puis j'ose pas vous dire quel est le montant qu'on reçoit présentement parce que c'est pas dans les... c'est vraiment pas proche. C'est donc adéquat. Parce que le financement peut être récurrent et stable. Si tu as toujours 2,6 millions, c'est récurrent, c'est stable, mais c'est pas adéquat. Nos langues, elles ont besoin de soutien et davantage de soutien pour permettre la réparation, permettre la formation des ressources, permettre et de comprendre que nos langues, elles ne sont pas une langue comme le français ou l'anglais. Donc, elles ont leurs particularités qui vont demander des spécialistes pour chaque particularité. Donc, tout le travail est à faire. On part vraiment des fondations encore pour quelques langues. Il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources.
Là, on est à un an de la déclaration sur les droits des Premières Nations aux langues ancestrales, donc adoptée par l'ensemble des chefs de l'Assemblée Premières Nations Québec-Labrador qui énonce plusieurs droits, tous ces droits reliés au droit à l'autodétermination. Droit est complètement fondamental, inhérent au droit des premiers peuples. Est-ce que tu dirais que cette déclaration, elle pourrait justement permettre, garantir de promouvoir de manière plus efficace, je ne vais pas dire efficacement, mais s'assurer que ces langues-là soient revitalisées dans toutes les sphères de la société, parce qu'on parle d'éducation, on parle d'un point de vue général de la valorisation au sein des services publics. Est-ce que, peut-être peux-tu dire un mot sur cette déclaration, sa vision, puis qu'est-ce qu'elle pourrait permettre justement dans l'avenir?
C'est une grande question que tu me poses parce qu'il y a 46 articles dans la déclaration, il y a tous les considérants qui sont, ma foi, poétiques et puissants parce que nos langues, elles contiennent ces traditions juridiques-là, ces ordres juridiques-là. Et ça, c'est le droit du futur, en fait. Hein? C'est le droit du passé parce que c'est nos manières de faire depuis des millénaires. Donc, et quand on comprend ça, c'est presque illimité, c'est infini, qu'est-ce qu'on pourrait réapprendre sur nos langues et comme affirmation de droit également pour permettre à nos langues de ne pas seulement être enseignées comme des langues stériles, des langues secondes, mais des langues qui contiennent en elles, qu'elles sont les gardiennes de nos ordres juridiques. Juste le mot Shakaiken, lac, dans ma langue, qui vient de la racine du mot l'être que l'on aime, donc qui voudrait dire l'être dont on prend soin, nous lie au territoire. C'est un devoir de responsabilité envers nos territoires. Donc, c'est beaucoup plus que des mots, que de l'affirmation de droit linguistique. C'est aussi savoir que maintenant, on sait que ces langues-là, et elles portent des concepts qui nous lient entre nous, des devoirs de responsabilité envers nos territoires, envers tous les êtres vivants. Donc, je ne sais pas si tu vois tout ce que le potentiel que ces langues-là ouvrent. Ça, c'est seulement une partie. Donc, plus concrètement, c'est sûr qu'on peut s'intéresser à des articles de la loi et mettre en place au sein de nos gouvernances, de façon isolée ou de façon plus large, en adoptant une loi sur nos langues. Donc, des actions concrètes qui vont nous permettre de renforcer, protéger et transmettre, revitaliser, maintenir nos langues. Donc, je pense que c'est un document historique, c'est un document fort qui va inspirer plusieurs générations de Premières Nations et qui vont l'améliorer et qui vont s'en inspirer pour pouvoir continuer de défendre nos droits linguistiques, mais aussi de prendre action. Parce que nos langues, elles sont menacées. Il y a une urgence d'agir, mais ce sont des droits de naissance. Ce sont les droits de naissance de nos enfants et des enfants qui ne sont pas encore nés de les parler. Donc, le chemin à faire, là, au niveau de la prise de conscience globale, c'est qu'on parle au sein de nos propres gouvernances, milieux, communautés, au sein de la société québécoise, du gouvernement québécois, ce travail-là, il est essentiel et nous, on n'arrêtera jamais de le faire parce que c'est ce droit-là de naissance qu'on défend. C'est le droit de nos enfants, c'est le droit de nos parents qui ont été, leur langue leur a été arrachée, leur culture leur a été arrachée. Ils ont des droits. Là-dedans, on peut parler de réparation. Il y a des droits, il y a des moyens et des devoirs de l'État québécois et canadiens de réparer ces torts-là. Et c'est important, puis on le voit comment c'est important quand on s'intéresse aussi à d'autres instruments juridiques comme la Convention de 2005 sur la protection et la promotion des diversités culturelles. On parle du mieux vivre ensemble là-dedans. On parle de l'importance des diversités culturelles comme une richesse mondiale. Donc ça, il faut que ça soit ramener ici, je pense. Ne pas être dans un État ou une province où on veut vivre sous une langue. Nous, on ne veut pas vivre sous une langue. D'ailleurs, nos communautés, souvent, parlent anglais, français, leur langue ancestrale. D'autres parlent français, leur langue ancestrale. Il y a des communautés qui ont 4 langues. Donc, c'est une richesse. Il faut le voir comme une richesse. Je pense que c'est ça aussi, le travail de militantisme en arrière de ce document-là, c'est on a nos responsabilités et les gouvernements ont leurs responsabilités et à partir du moment où il a été adopté, on va s'y référer. Et nous, on n'arrêtera jamais.
Le gouvernement du Québec, quelles sont les négociations avec ce gouvernement pour mettre en œuvre cette déclaration ou juste la reconnaître? Parce que ça va peut-être impliquer aussi une collaboration avec le gouvernement pour que ces langues-là soient présentes aussi dans toutes les échelles de la société, comme le prévoit aussi la déclaration, qu'on reconnaisse ces langues-là, que ça soit au niveau de l'éducation, que ça soit dans le milieu du travail, que ça soit dans toute forme de vie qu'on a, de pouvoir parler sa langue et pouvoir travailler dans sa langue, et pouvoir juste vivre dans sa langue.
Pour le moment, nous, ça fait plus d'un an qu'on a une main tendue et qu'on attend que le gouvernement du Québec vienne se rasseoir à la table pour regarder quels sont les chantiers qu'on pourrait prendre pour pouvoir donner un souffle à ça. Donc, le ministre Lafrenière était venu lors de plusieurs consultations, visiter les chefs pour leur dire qu'ils voulaient travailler autrement. Et nous, on s'est structuré, donc on a établi une résolution pour une table technique avec le gouvernement. On a eu une rencontre, mais à partir de là, il n'y a pas eu d'intérêt, je pense, pour le gouvernement du Québec de venir se rasseoir. On va recogner à la porte. Maintenant, peut-être qu'ils viendront s'asseoir. C'est sûr que il y a le recours judiciaire aussi là, de la PNQL et du CAPN là, contre 14 articles de la loi 14. Donc, ça peut être un enjeu de part et d'autre là, de faire attention à certains éléments. Donc, c'est très certainement qu'on n'a pas une vision commune de où on veut aller. Mais j'entends que le ministre Lafrenière a voulu travailler autrement. Maintenant, on l'attend à la table technique pour pouvoir trouver des solutions. Ça peut se faire sans... pas sans compromis, mais dans un cadre de très encadré, sécurisant, qui ne porte pas atteinte au préjudice à chacune des parties. Donc, on est en attente. Mais pour nous, je pense, cette déclaration-là, elle a été faite aussi pour nous, par nous. Cette affirmation-là, elle est maintenant vraie, réelle, concrète, historique. Et on va poursuivre les actions de notre côté. Si on ne peut pas forcer le gouvernement à venir à cette table-là, on continue de les inviter. Mais il y a tellement d'actions qu'on peut faire en contrepartie de notre côté. Et c'est ça qu'on va faire. Donc, on se planifie pour pouvoir donner vie à cette déclaration-là pendant des décennies et voire plus longtemps.
Et justement, en termes d'action entreprise par les nations, est-ce que des réglementations, que ce soit une loi ou d'une autre façon, là, ont été établies par les nations, justement en lien avec la protection, la promotion de leur langue? Tout à l'heure, tu parlais, si je ne me trompe pas, d'une loi des Ganegahaga, de Ganawake, pardon, puis une loi Cree qui vient protéger ces langues-là, qui résulte pas forcément de la mise en œuvre de la déclaration. Est-ce que là, justement, avec la force de cette déclaration, ça va conduire, ou ça, en ce moment, conduit certaines nations à adopter leur propre... J'aime pas parler d'instrument juridique, parce que c'est une vision assez, assez très matérielle de les choses, mais un certain outil pour promouvoir, protéger leur langue?
C'est exactement le genre d'action qu'on est en train de faire présentement. Donc, on s'intéresse dans le plan d'action de la déclaration à regarder pour une recherche sur les ordres et les traditions juridiques. En fait, nous, on est des éclaireurs. Donc, on a travaillé à mettre en place des modèles de loi, donc qui sont des lois cadres dans lesquelles les communautés peuvent maintenant s'inspirer, s'assurer qu'ils n'ont pas de... qu'ils ont tout en main pour pouvoir maintenant modifier ces cadres-là pour pouvoir adopter leur propre politique et leur politique linguistique ou loi sur leur langue. Donc ça, on est dans ça présentement. On va offrir de la formation sur les traditions juridiques. On l'a fait d'ailleurs la semaine dernière. Donc la connaissance de cette porte-là dont je te parlais tout à l'heure, comme nos langues, tout ce qu'elles portent, et c'est très, très fort et très puissant. Non seulement au niveau de la réappropriation identitaire et culturelle, mais au niveau de l'affirmation de nos droits linguistiques et territoriaux. Donc, c'est ça les paradigmes qui sont pas présents, pas tout à fait présents, mais peu présents, qu'on doit inclure dans nos documents juridiques, dans nos lois, dans nos conventions, dans nos déclarations, dans nos constitutions. Bachoya se fait ce travail-là, puis c'est un très beau travail de revenir à ça. Donc, nos lois doivent être écrites par nous, dans nos philosophies, avec nos valeurs, avec nos concepts. Donc, ce travail-là, il est très beau. En parlant, tout à l'heure, tu m'as rappelé peut-être les obligations du gouvernement du Québec par rapport à nos langues, c'est qu'en 2025, en fait aussi, on n'a pas eu de nouveau budget pour les langues autochtones. Donc, on est en train encore de fonctionner sur un vieux budget, alors que pour le français, je crois, et l'identité et la culture, on a eu un budget de 713 millions ou 717, là, j'ai pas mes notes, millions de dollars. Donc, c'est aussi dans les moyens, dans les ressources très inégales qu'on se retrouve une forme d'injustice linguistique, vous voyez. Donc, ça, c'est important de l'affirmer. Puis c'est pour ça qu'on veut s'asseoir avec le gouvernement aussi dans cette table-là pour pouvoir discuter de ça. Donc, quelles chances auront nos langues d'être maintenues? des chances d'être présentes, d'être représentées dans leur politique aussi. Donc, le Québec est une terre d'accueil pour le français et elle doit refléter cette présence historique et millénaire de ses premières langues. ce sont les premières langues officielles de nos territoires.
Je vois qu'on arrive déjà presque à la fin de notre émission. Sarah, j'aimerais vraiment te remercier pour tout ce que tu nous apportes qui est très éclairant. J'aimerais te donner de nouveau le micro ou le bâton pour te donner peut-être un mot de la fin.
Tout d'abord, je pense que je dois à nos aînés qui continuent de nous nourrir. On arrive de notre rencontre, il y avait des aînés qui nous ont parlé de la langue d'une manière tellement puissante. On entendait des phrases comme « nos langues sont l'âme de nos peuples ». Et c'est ce qu'on parle depuis tout à l'heure, tout ce que nos langues contiennent. En fait, elles contiennent toute cette spiritualité, cette vision du monde, ces valeurs. Donc, remerciements pour nos aînés, nos ancêtres qui ont su les garder vivantes. Mon cœur va aussi bientôt, au mois de septembre, la semaine prochaine, avec les survivants des pensionnats. Donc, notre famille qui ont vécu tout ça. Et aux jeunes générations, je vous demande de regarder les modèles comme Shawit, qui a réappris sa langue, il va probablement vous en parler, et d'utiliser vos langues comme une source de fierté identitaire, c'est tellement beau qu'est-ce qu'elles portent. Donc, aux jeunes, de revenir vers vos langues, de revenir vers le territoire, de revenir vers la culture, de voir qu'est-ce que ça fait en vous aussi, est-ce que ça apporte un sentiment d'apaisement. Donc, c'est pour toutes nos nations de trouver à travers le travail qu'on a fait, peu importe petit ou grand, qui touche nos langues, une manière de guérir ensemble, de poursuivre ce travail-là où on n'a pas le choix. C'est un devoir. Pour moi, c'est un devoir. Je sens une grande responsabilité personnelle, familiale, collective, de faire qu'est-ce que je peux à mon niveau pour pouvoir les protéger et continuer de les perpétuer. Pour les gouvernements, je demande l'ouverture, d'ouvrir leur cœur. Ils doivent passer l'étape de l'aphasie coloniale, donc de retourner le miroir. Qu'est-ce qu'ils veulent pour eux-mêmes? C'est ce qu'on cherche pour nous-mêmes. Donc, j'ai bien entendu l'intention de travailler autrement, mais travailler autrement, ça va vouloir dire d'être à l'écoute. Donc, de venir s'asseoir, de réfléchir ensemble, puis d'avoir de leur part une main tendue aussi, à ne pas avoir peur de qu'est-ce qu'on fait, mais plutôt voir ça comme une force. Nos langues, nos cultures sont une force pour la mondiale, le monde entier. Donc ça, je pense que c'est le plus beau message. Puis je voudrais également remercier toute l'équipe du comité. La petite équipe en premier parce que ces filles sont complètement dévouées à leur travail et ont la même passion que j'ai, je crois, et cette responsabilité-là. Et ensuite, à nos membres, à nos représentants qui également sont les ambassadeurs de ce qu'on fait, qui retournent sur le terrain et continuent de bâtir pour nos langues. Donc, et nos élus hein, qui portent le flambeau, donc qui travaillent également à leur niveau. Donc, tout le monde qui travaille aux langues, Timishton, je vous remercie énormément. Et merci à vous de nous donner une voix.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Allô, je m'appelle Julie Collin et j'anime l'émission Julie Lioli. Débutez votre fin de semaine avec de longues entrevues, des chroniques offertes par une équipe de collaboratrices et de collaborateurs, des suggestions d'activités et des actualités liées au milieu littéraire. Julie Lioli, c'est les vendredis de 16h à 18h, en rediffusion les jeudis de 11h à 13h, sur les ondes de Sequoia FM.
Voyage, voyage! Ici Aya, votre émission Voyage et découverte vous propose
des échappées belles au Québec et ailleurs dans le monde.
Des aventures captivantes, des idées intéressantes pour vos escapades.
Des invités aux expériences variées et inusitées.
Laissez-nous vous surprendre et partons ensemble à la découverte du monde.
À l'émission Ici et ailleurs, les jeudis de 10 à 11 heures, en rediffusion les lundis à 11 heures. Voyage,
voyage! Avis aux membres de la SDC Saint-Roch.
Joignez-vous à l'Assemblée générale annuelle ce mardi 30 septembre à 17 h. Une démarche démocratique pour échanger sur l'évolution du quartier. Pour plus d'informations, info@sdcsaintroch.com.
Organismes communautaires, culturels, OBNL et coopératives, ce message est pour vous. Devenez membre de CKIA et profitez de nos services promotionnels pour mettre de l'avant nos valeurs communes. En devenant membre de CKIA, profitez d'une campagne publicitaire gratuite sur nos ondes. De plus, obtenez 15 % de rabais sur tous nos autres forfaits publicitaires et services de réalisation de balado. Faites-vous entendre. Contactez-nous à pub@ckiafm.org pour les détails.
Culture, c'est votre rendez-vous culturel épicurien tous les mercredis à 11h sur les ondes de CKIAFM et ckiafm.org en compagnie de Julie Réaume. Musique, art de la scène, art visuel, théâtre, bouffe, boisson et plus encore. Soyez des nôtres tous les mercredis à 11h pour l'émission Culture.